Radio Okapi. Okapi.
Les titres ce soir, les ministres belges de la coopération et celui des affaires étrangères ont rencontré ce matin à Kinshasa le chef de la diplomatie congolaise Rui Mochibanda. Alexandre De Croo et Didier Reynders ont salué la publication du calendrier électoral global, tant réclamé et confirmé en même temps un soutien financier de la Belgique. La province orientale dotée d'un nouveau document de référence sur les stratégies d'intervention dans le cadre du SAREC, c'est pour résoudre les conflits et consolider la paix entre les communautés de l'Ituri, du Haut et du Bas-Uélé. Et puis coup d'envoi ce dimanche des épreuves préliminaires de l'examen d'état en RDC. 15 000 candidats autodidactes ont répondu aux questions sur les français, les mathématiques, l'anglais et la culture générale. Bonsoir à tous et merci de nous faire confiance. Nouvelle visite des autorités belges en RDC. Le vice-premier ministre chargé de la coopération et développement et son collègue des affaires étrangères sont à Kinshasa depuis samedi soir. Alexandre De Croo et Didier Reynders passeront quelques jours dans la capitale congolaise et dans l'est du pays. Et ce dimanche matin, les deux hôtes ont rencontré le chef de la diplomatie congolaise, Rui Mochibanda, avec qui ils ont parlé de la traque des FDLR, du processus électoral, de l'économie et du développement. L'essentiel de ce premier tête-à-tête, visiblement prolifique, avec vous, Dona Madimba.
Ce fut en gros des échanges apparemment sans gueule de bois, où les positions des uns et des autres sont apparues particulièrement claires, au sujet par exemple des FDLR que la RDC a décidé aux dernières nouvelles de traquer toute seule. La Belgique a souhaité que la RDC accepte à nouveau le soutien de la MONUSCO, ce que la RDC ne rejette pas totalement, précise le ministre Raymond Tshibanda.
Nous restons aussi ouverts que par le passé à coopérer avec la MONUSCO, avec les Nations Unies. Et nous entendons le faire sur la base des résolutions qui insistent sur la nécessité, quel que soit ce qu'on entreprend, de préserver et de respecter la souveraineté de la République démocratique.
Concernant le processus électoral, les ministres belges ont une fois encore salué la publication du calendrier électoral tant réclamé, espèrent le respect de celui-ci et confirment un soutien financier de leur pays.
Ça va se faire pas seulement sur un plan bilatéral, mais aussi avec la communauté internationale et en particulier l'Union européenne.
Au sujet de l'économie, la Belgique souhaite la signature des textes protégeant les investissements et enfin, concernant l'état de la coopération entre les deux pays, le pays de Léopold II ne rêve désormais plus que d'une coopération qui bénéficie réellement aux populations des deux pays et celle du Congo en particulier.
Cap vers le Nord Kivu à présent. Une borne géodésique a été reconstruite ce samedi après-midi par la commission mixte Rwanda-RDC en vue de la délimitation des frontières sur la colline de Bushwaga, une colline située à une dizaine de kilomètres au nord-est de Goma dans le territoire de Nyiragongo. Cette borne va servir d'appui pour déterminer les endroits où seront érigées d'autres bornes frontières entre les deux pays. Selon un expert de cette commission mixte pour la RDC, deux bornes seront placées au Nord Kivu et deux autres au Rwanda voisin. Alphonse Vangomabiala est au micro de Gisèle Cage.
Les bornes ont été déterminées en 2011, mais pour les déterminer, ils se sont appuyés sur ce qu'on appelle des bornes géodésiques, des bornes qui sont connues en avance, en coordonnées, de part et d'autre de la frontière. Et maintenant, aujourd'hui, toutes ces bornes frontières presque ont été détruites, mais nous avons les coordonnées. Pour qu'on arrive à les réfixer, il fallait s'appuyer sur des bornes qui avaient été implantées à l'époque. Mais malheureusement, celles-ci ont été aussi détruites. Dans la région, les gens considèrent ces repères-là comme étant des endroits où les colons avaient placé des trésors, des minéraux, alors que c'était des repères qui servaient pour fixer les frontières. Et chaque fois qu'on venait de perdre une de ces bornes frontières, on s'appuyait là-dessus pour les réfixer. Malheureusement, toutes ces bornes géodésiques ont été détruites aussi. C'est ainsi que, pour retrouver les endroits où se situaient ces bornes-là, il faut remettre les bornes géodésiques en place, les recalculer, et avec ces coordonnées, ça va nous permettre, ayant aussi les coordonnées des bornes frontières, de remettre ces bornes-là en place. Et cela donne une certaine assurance. Quand chaque pays verra où passe la ligne de démarcation, donc il n'y aura pas d'incertitude.
J'ajoute que c'est depuis le mois d'août dernier que la commission mixte reconstitue cette frontière héritée de la colonisation. Ce travail se fait à la demande de l'Union africaine et de l'ONU qui souhaitent que l'intégrité de chaque pays soit désormais respectée. Autre région, autre nouvelle. La province orientale dispose désormais d'un document de référence sur les stratégies prioritaires et le plan d'action d'intervention dans le cadre du programme de stabilisation et reconstruction à l'est du pays Starek. Le document a été validé et adopté hier après-midi par le gouvernement provincial, la société civile et les FRDC. Il vise la résolution des conflits et la consolidation de la paix entre les communautés de l'Ituri, du Haut et du Bazouélé. À Kisangani, les comptes rendus d'Aliana Ali Panagama.
Le travail a été mené par le comité provincial du programme Starek avec les concours de certains experts internationaux. Le document détaillé reprend une vision commune de la stabilisation en se référant à des natures des conflits qui existent sur les trois axes, à savoir Sud Irumu vers Ariwara, Mambasa Bafassende et dans les Ouélé de Dungu à Bondo. La synthèse de son contenu avec Jean-Marc Mazio, chargé du programme provincial du Starek.
Et ici, ce sont des interventions qui seront focalisées sur les piliers qui sont très connus, notamment la sécurité, la restauration de l'autorité de l'État. Il y aura des actions dans le cadre des dialogues communautaires et démocratiques, mais aussi les questions genre, questions violences sexuelles, dialogues, seront prises dans le sens transversal.
Le gouvernement provincial s'est dit très satisfait de cet outil de référence. Jabba Manissa Saïdi, le gouverneur de province.
Cela correspond parfaitement bien au programme d'action de développement que le gouvernement provincial a mis en place et cela va parfaitement bien dans sa logique et son approche, et nous allons continuer à le parfaire pour les années à venir.
Ce document sera présenté au mois de mars au niveau national et discuté encore avec des bailleurs de fonds pour des éventuels financements. Aliana Lipanagama, Kisangani, Radio Kapi.
Pendant ces temps, 158 millions de dollars américains, c'est le coût du renforcement des infrastructures socio-économiques dans les deux Kasaï. Ce projet a été lancé ce samedi à Kananga par le ministre du Développement Rural. Selon Eugène Seroufou Lingaya Baseka, l'objectif est d'améliorer l'accès aux services sociaux des bases et le renforcement du capital humain. Ce financement de la Banque africaine de développement s'étend sur une période de 4 ans. Le représentant résident de là-bas dans RDC parle ici des axes de ce projet, Bruno Zalizali, dans ce propos recueilli par André Kambalamoujanaï.
La réhabilitation du réseau de distribution d'eau potable dans la ville de Mbujimaï, la réalisation de 60 systèmes autonomes d'addiction d'eau potable, la construction de 60 écoles et de 60 centres de santé, ainsi que des actions de formation et des renforcements des capacités des différents intervenants permettront non seulement de renforcer les acquis d'autres programmes pilotés par le gouvernement de la RDC, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, et de participer à relever les défis que connaît le secteur de l'AEPA en RDC. Ces projets permettront enfin d'assurer le fonctionnement normal du système d'addiction d'eau potable, également financé par la banque du centre de la régie des eaux à Chikapa. Je voudrais souligner l'impact significatif que le projet aura sur les populations à travers la réduction substantielle de la prévalence des maladies liées au manque d'eau potable et d'assainissement, les économies importantes sur les dépenses de santé de ménages, la création de milliers d'emplois.
On en vient maintenant à l'examen d'État. Les épreuves préliminaires se sont déroulées ce dimanche sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À l'occasion, l'inspecteur général de l'enseignement primaire et secondaire a affirmé à Radio Kapi que plus de 15 000 candidats autodidactes ont été alignés pour le cycle long reparti dans près de 217 centres. Michel Djamba ajoute qu'au moins 357 candidats du cycle court étaient reçus dans 8 centres. Le concours portait sur le français, les mathématiques, anglais, la culture générale. À Kinshasa, une délégation du secteur a visité les trois centres prévus. Jacques-Yves Moulima signe le reportage.
Première étape, le centre de passation Kinest, situé dans l'enceinte du lycée technique de l'IMETI. Ici, au moins 740 candidats ont passé les épreuves. Après une brève explication du chef de centre, la délégation a visité deux salles de classe. Même exercice au lycée Teokana, sur l'avenue Force, dans la commune de Kasavubu, pour la deuxième étape, Kin Centre, avec ses 984 candidats. Cette tournée a eu comme point de chute le centre Kin Ouest à l'Institut de la Gombe, qui a accueilli près de 893 candidats. Un taux qui, dans l'ensemble, a connu un accroissement de près de 6% par rapport à l'année dernière, mais dont la parité n'est pas atteinte, mais elle est tout de même encourageante, estime Mme Thérèse Olenga.
Quand on est déjà à plus de 46% de participation pour la femme, c'est déjà bon. Bien entendu, nous rêvons de pouvoir réaliser plus. voit que les effectifs croissent par rapport à l'année dernière.
Ce nombre croissant de candidats va dans le sens, d'après l'inspecteur général Michel Diamba, de réponse à fournir au double défi de la RDC.
Un défi de l'émergence pour 2030 et un défi de devenir une grande nation pour 2050. Et pour en arriver là, nous avons besoin de ressources humaines, hommes et femmes, bien formés, retenus à travers le système d'évaluation certificatif national tel que l'examen d'État.
Notons que pour Kinshasa, le plus jeune candidat est une fille de 16 ans d'âge et le plus vieux en a 68.
Terminons par le lancement ce dimanche des activités d'encadrement de 110 enfants de la rue à Katana dans le territoire de Kabaré, une trentaine de kilomètres de Bukavu au sud Kivu. Il s'agit des enfants victimes de violences sexuelles et autres traumatisés de guerre selon l'association locale pour le développement de ce groupement. Les autorités locales et quelques partenaires ont assisté à cette cérémonie et pour Radio Okapi, Delphine Amuto a fait le déplacement des Katana.
Parmi les 110 enfants, des nombres 65 filles et 45 garçons dont l'âge varie entre 8 et 15 ans selon l'AGADECA. Ce dernier indique que ces enfants de la rue proviennent des familles des déplacés qui avaient fui dans le passé vers 2009 les attaques et exactions des FDLR dans les périphéries des Katana et dont leurs familles sont sans moyens. Le présent projet vise à chercher comment diminuer l'état des violences faites sur ces enfants, les intégrer dans la société à travers l'éducation formelle, mais aussi les réintégrer dans leurs familles respectives. L'association a payer sur fonds propres la prime scolaire seulement pour 50 enfants depuis le début de cette année. La structure attend toutefois d'autres aides des partenaires pour orienter le reste d'enfants dans l'apprentissage de métiers. L'hôpital de référence des Panzi est prêt à recevoir les victimes des violences sexuelles dans le cadre de leur prise en charge. Le chef de poste d'encadrement administratif de Katana qui a pris part à la cérémonie s'est dit soulagé par ce geste et promet d'encourager toute sa communauté à s'investir dans cette action qui arrive au point nommé. Depuis Bukavu, Delphine Amuto, Radio Okapi.
Fin de ce journal, merci d'avoir écouté. Merci infiniment à Babel Pongo Massimango et Julien Nyamouni qui m'ont accompagné. Mise en onde de Dieudonné Nyangasa.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.